Littérature sans frontières.
Madame, Monsieur, bienvenue à Yaoundé, aéroport Simalem.
Catherine Frochon-Toussaint. Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cameroun. Comme vous venez de l'entendre, nous sommes en effet à Yaoundé pour une émission spéciale à l'occasion de la remise du prix littéraire de RFI et des éditions Lattès.
Le nouveau lauréat de l'édition du prix Voix d'Afrique 2024 est Ninsémon Falé pour ses Soleils Ardents.
Le prix Voix d'Afrique qui, pour la première fois, est décerné sur le continent où vivent et écrivent les participants de ce concours. Et aujourd'hui, nous sommes donc avec le quatrième lauréat qui vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour Ninsémon Falé.
Bonjour Catherine.
Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment si important où ici au Cameroun, vous êtes récompensé pour ce prix Voix d'Afrique?
Je suis très heureux et très fier. Je découvre le Cameroun par la même occasion. Ça a été une journée assez éreintante, mais j'en reste absolument heureux et content de partager ce moment d'échange avec vous.
Donc vous n'étiez jamais venu au Cameroun jusqu'ici?
Non, c'est ma toute première fois.
Et alors, qu'est-ce que ça vous fait comme impression?
C'est très paisible, bizarrement. Je m'attendais à quelque chose de plus bruyant. Les Camerounais vont m'en vouloir, mais que ce soit l'architecture ou l'ambiance, je me retrouve dans un paysage quelque peu onirique.
Est-ce que vous avez eu déjà l'occasion de rencontrer Ernice, qui en effet est la précédente lauréate du prix Voix d'Afrique et qui est camerounaise?
Oui. Ernice m'a dit « Je suis soulagé parce qu'enfin, je passe le flambeau. » Non, je suppose que c'était une aventure assez prenante pour elle. Une grande aventure qu'elle est heureuse de me céder et j'en suis très heureux.
Eh bien, parlons de vous en effet, Ninsémon Falé. Donc, vous avez 22 ans, vous venez de la Côte d'Ivoire, vous vivez à Abidjan, où vous êtes actuellement graphiste indépendant. Qu'est-ce qui vous a donné envie, puisque vous êtes si jeune, de participer à ce prix Voix d'Afrique?
Il faut dire que j'ai toujours été intéressé par l'idée de raconter des histoires. Je dessinais pendant très longtemps au collège, un petit peu à l'université, et j'avais encore cette envie-là de produire quelque chose. En ce moment-là, je n'avais pas de manuscrit à proprement dit, et j'avais quelques petites histoires que je postais par-ci par-là sur Facebook ou sur Wattpad, qui est une application très connue. Donc, il y a ce prix qui arrive, et j'ai tout de suite voulu saisir cette opportunité-là. J'ai commencé à écrire justement dès la première édition. Bon, pour des raisons de procrastination, j'ai pas pu finir le roman. Mais je me souviens que dès la première édition, j'étais tout de suite happé par ce prix. Je me suis dit, il faut que je participe. La quatrième année, c'est l'année où je réussis enfin à finir ce roman qui me tenait aux tripes depuis des années. Et même si je ne gagne pas, c'est une chance qu'il faut saisir.
Et ça a changé quelque chose dans votre vie depuis qu'on a annoncé que vous étiez le lauréat du prix Voix d'Afrique?
Oui, parce que... Je me suis recentré sur cette chose qu'est la littérature. C'est actuellement ce qui fait battre mon cœur parce que j'ai longtemps écrit pour moi, j'ai longtemps écrit de mon côté, dans ma chambre, sans jamais être lu par personne. Et me dire qu'aujourd'hui, déjà mon roman est publié, mon roman va être dans les mains d'étrangers, de personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est un changement radical, on va dire. Parce que quand on écrit tout seul, on ne se dit pas « Ah, je vais être lu par celui-là ou celui-là ». On se dit « Bon, peut-être qu'il va finir au fond d'un tiroir, personne ne va jamais le lire. On va écrire peut-être un deuxième roman que personne ne va lire ». C'est une aventure difficile que de se dire « J'écris un roman, je ne sais pas ce qu'il adviendra de lui ». Donc, en termes de changement, c'est déjà, je pense, le plus gros. Au niveau de la famille, ils ont tous été très heureux, ils m'ont encouragé. J'ai écrit pour moi, comme je l'ai dit, aucun membre de ma famille ne m'a lu, aucun membre de ma famille ne sait véritablement de quoi parle ce roman. Au début, quand je leur ai dit, bon, j'ai été lauréat d'un prix, j'ai démissionné, ils m'ont dit, mais t'es malade, tu démissionnes, qu'est-ce que tu racontes? Et au final, ils ont été très heureux, ils ont dansé, ils m'ont félicité des jours durant. Et voilà, je pense que ça, c'est un changement qui annonce d'autres changements parce que je me dis que ma famille reconnaisse ce talent-là, c'est quelque chose de profondément marquant.
Donc, c'est un prix qui vous a fait faire un bond en avant,
Oui,
qui a
exactement.
accéléré les choses.
Oui, c'est ça.
Alors, parlons de ce roman, Ces soleils ardents, qui est donc récompensé, qui met en scène deux personnages, Hiro et Thierry. Ce sont deux jeunes étudiants, et alternativement, chaque chapitre fait entendre la voix de ces deux jeunes garçons ivoiriens, qui sont assez différents néanmoins. Ils ne sont pas du même milieu social, pas du même milieu géographique, mais il y a une véritable amitié qui se crée entre eux. Est-ce que c'était votre projet, Nassemon Fallais, de raconter l'histoire des étudiants aujourd'hui à Abidjan?
L'idée de départ que j'avais pour ce roman, c'était de raconter ces jeunes talentueux qui nourrissent des rêves, qui nourrissent des projets, ces jeunes qui réussissent et qui changent le visage de l'Afrique. On parle de personnes qui travaillent dans la mode, dans la photographie, dans la littérature, dans le cinéma. Et c'était l'idée d'avoir ces personnages-là qui vont au bout de leurs rêves, qui se battent. Et qui, à la fin de la journée, montrent qu'ils y sont arrivés. Et lorsque j'ai commencé à écrire, j'avais plusieurs personnages, une galerie, une dizaine de personnages, on va dire. Et au final, je me suis rendu compte que ils se ressemblaient tous un petit peu, et qu'au final, l'amitié est un sujet qui revenait beaucoup. Donc, j'en ai éliminé certains pour au final garder que Thierry et Hiro. Garder cette amitié-là qui pour moi était la plus sincère et la plus belle de tous, de toutes, pardon. Et j'ai voulu les garder dans tout ce qu'ils représentaient de différences, de milieu social, etc. Parce qu'ils nourrissent bien évidemment des rêves différents. Ils ne viennent pas du même lieu, comme tu l'as dit. Mais ils se retrouvent dans cette chambre universitaire qui pour moi est le centre de leur monde, le centre de toutes leurs aspirations. Et j'avais envie comme ça de faire résonner leur voix, qu'ils se regardent et se reconnaissent un petit peu comme des âmes sœurs, mais amicalement parlant.
C'est inspiré de votre propre expérience d'étudiant, Nassemon Fallais?
En partie, j'ai fait une première année en lettres modernes à l'université Félix-Boigny et j'ai rencontré des personnes singulières. Beaucoup de personnes avec qui je me suis lié d'amitié. Peut-être pas une amitié aussi sincère et belle que celle que Hiro et Thierry partagent, mais je me souviens que ce sont des personnes qui m'ont marqué, ce sont des personnes qui, comme Hiro et Thierry, nourrissaient des espoirs, des projets, des personnes qui me parlaient de ce qu'ils envisageaient de faire de leur vie. Et je me suis dit que c'était un formidable moyen de faire rencontrer de si belles âmes, de personnes qui ont cette envie-là de se battre, d'arriver à quelque chose, dans une situation, dans un univers qui ne laisse pas forcément les gens rêver. Ouais, on va dire ça.
C'est vrai que c'est un univers, celui que vous décrivez, qui est un peu difficile quand même. Il faut s'accrocher pour être étudiant. Et puis, vous n'hésitez pas à dire que, voilà, il y a de la drogue qui peut circuler, il y a des personnes qui donnent des faveurs sexuelles, soit pour avoir des meilleures notes, soit parce qu'elles n'ont pas le choix. Enfin, c'est un portrait de l'université un peu sombre que vous dressez aussi, Nassemon Fallais.
Oui, c'est un portrait nécessaire parce que j'ai longtemps lu des histoires qui parlaient des étudiants de l'université, mais c'était toujours, ils ont fait des grèves, ils ont lancé des cailloux, ils ont jeté des machettes, mais c'est jamais, ils ont vécu telle situation, ils se sont retrouvés dans tel endroit, ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. On ne parle jamais des histoires singulières, on ne parle toujours du groupe, on parle toujours de l'ensemble. Et pour moi, c'était important de raconter à hauteur d'homme ce que ces jeunes étudiants-là vivent, en abordant tout, mais alors vraiment tout, dans les moindres détails, ces difficultés qu'ils rencontrent, ces tentations, ces vices auxquels ils font face, mais dont ils s'en sortent parce que c'est un univers à la fois tentant, à la fois vicieux, à la fois dur, mais il forge et il les rend plus forts, il les rend plus résilients. Et c'est de ça que j'avais envie de parler.
S'ils sont différents, Hiro et Thierry, ont un point commun dans le sens où ils ont tous les deux des relations difficiles avec leur propre père. Oui. Thierry, on va le découvrir, a souffert psychologiquement de la dureté, pour ne pas dire de la violence de son père, qui par ailleurs était policier. Donc il a fui la maison quand il a pu, et c'est comme ça qu'il se retrouve étudiant. Et de son côté, Hiro a quitté le village natal après le décès de sa mère, après le départ de son frère aîné. Et c'est vrai qu'il a une relation silencieuse avec son père et qu'ils passent l'un à côté de l'autre. C'est un thème qui vous tient à cœur, ça, les liens père-fils?
Oui. Je ne m'en suis pas rendu compte au début quand j'écrivais, parce que, comme je l'ai dit, mon intention première, c'était de raconter ces jeunes qui se battent, qui se cherchent. Et je me suis rendu compte que pour arriver à se réaliser, à se construire, il était nécessaire d'explorer cette thématique de l'héritage familial, de la transmission père-fils, parce qu'on se construit en regardant ses pères, on se reconstruit en regardant ses aînés, et la figure paternelle est l'image immédiate qui nous fait décider de ce qu'on veut devenir dans la vie. C'est quelque chose qui est revenu à la fois pour Hiro et pour Thierry. Je me suis dit qu'il fallait construire une relation différente. Pour Thierry, il a cette relation conflictuelle avec son père qui a pu être violent par le passé, qui l'a bridé, qui a voulu le formater à son image. Et pour Hiro, on se rend compte qu'on a un père effacé et mis au ras de la société, dont on a honte presque. Il n'y a pas cet échange-là, il n'y a pas non plus de relation conflictuelle, mais c'est plus une distance silencieuse qui ne s'explique pas, mais qui est là.
Duquel des deux personnages vous sentez-vous le plus proche, Nance Monfalé?
Je pense que je me sens plus proche de Hiro. Parce que c'est le premier personnage que j'ai créé, c'est celui qui, je pense, par ses passions, par sa manière de voir la vie, me ressemble le plus. Après, il faut dire qu'ils ont tous les deux une partie de moi. Il y a par exemple Thierry, qui a un peu cette manie de se cacher, de montrer au monde un visage qui n'est pas forcément le sien. Et c'est un petit peu les angoisses que lui a léguées. Malheureusement. Et bon, oui, ils me ressemblent tous un peu d'une manière ou d'une autre.
Hiro, justement, va apprendre le décès de son père et va retourner au village. Il y a ce très beau passage dans votre roman Nance Monfalé, Ces soleils ardents. Est-ce que vous voulez bien nous lire cet extrait où Hiro rentre pour les obsèques de son père ?
Nous arrivâmes enfin au village. Les cases en terre côtoyaient les maisons en ciment. Le vert des arbres et de la broussaille servait de lien entre le bleu du ciel et le marron de la terre. La volaille et les chiens se baladaient en toute liberté. Les enfants jouaient presque nus avec des jouets artisanaux qui semblaient les amuser plus que tout. Les hommes rentraient des champs. Les femmes cuisinaient le repas du soir. Quelque part, un poste radio diffusait de la musique. Au texte chanté en guéri, l'ethnie principale de la région et celle à laquelle nous appartenions. Cette vie simple m'émerveilla, comme si je la découvrais à peine. Comparée au tumulte et à l'urgence d'Abidjan, ici, le temps paraissait s'écouler plus lentement. La voiture s'arrêta. Juste devant nous se trouvait ma maison. Les souvenirs affluèrent sans me laisser le temps de souffler, au point que mes yeux s'embuèrent de larmes. Je gardais les yeux fixés sur cette maison qui m'avait vu grandir, avec le ciel du soir, les murs qui n'avaient jamais été peints prenaient un gris des plus sombres, proche de celui des tôles métalliques qui servaient de toit. Les murs me rappelèrent les fois où Oulahi et moi dessinions des fresques hilarantes en grattant la surface grise avec des morceaux de cailloux ou de charbon. Le toit en tôle me rappela les soirs de pluie, quand l'eau entrait à l'intérieur et remplissait les vieilles casseroles que ma mère posait ci et là. Je ne parle même pas de la terrasse qui avait été le témoin de tant de nos échanges. Il me fut insupportable de me rendre compte que, il ne restait presque rien de cette vie, à part les souvenirs. D'abord maman, ensuite Oulaï, et maintenant papa. Était-ce le destin de notre famille ?
Et nous voici de retour à Yaoundé, au Cameroun, où l'émission Littérature sans frontières a posé ses valises avec RFI. Nous sommes là à l'occasion, effectivement, de ce prix Voix d'Afrique, récompense littéraire décernée par RFI, les éditions Lattès, ainsi que la Cité internationale des arts à Paris, prix qui, pour la première fois, est donc décerné sur le continent africain grâce à l'invitation de l'Institut français du Cameroun qui nous accueille. Et donc, je suis ici avec le lauréat de cette 4e édition, Nince Monfalé, auteur du roman « Ces soleils ardents » aux éditions Lattès. On l'a dit en première partie, c'est un roman d'apprentissage qui raconte la vie de ces deux jeunes hommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui veulent réussir. Mais c'est quoi la réussite exactement, Nince Monfalé ?
La réussite, c'est un bien grand mot, un mot qu'on ne comprend pas souvent ici, malheureusement, parce que ici, réussite rime avec réalisation sociale, réussite rime avec prestige, avec luxe, avec salaire, avec travail, et on a toutes et tous cette fondation qui est difficile à briser. On se dit, pour que je sois un homme fort, pour que je sois un homme qui a réussi, il faut que j'arrive à ce stade de ma vie. Il faut que je sois ce qu'on attend de moi. Il faut que je finisse mes études, il faut que je trouve un bon travail, une bonne maison, que je me marie, que j'ai des enfants, que j'ai de l'argent. C'est ce que représente la réussite ici.
C'est où ici ? C'est en Côte d'Ivoire ?
Ici, je parle.
C'est au Cameroun ? C'est sur le continent africain ?
Je parle de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas parler pour les autres pays parce que chacun a ses réalités. Mais c'est une généralité assez grossière, mais bon, c'est comme ça. Pour moi, il était question de déconstruire cette idée, de montrer que la réussite peut passer par bien des chemins et que la réussite peut d'abord être personnelle avant d'être exposée aux yeux de tous. Toute petite victoire reste une victoire. Et toutes nos aspirations, aussi petites ou aussi démesurées qu'elles soient, est d'abord une réussite personnelle que d'arriver au bout.
Donc si je comprends bien, Nince Monfalé, vous dites qu'il faut résister à la pression sociale,
oui,
et faire confiance à son intuition, à ses envies profondes. Et c'est ici, en effet, ce que va faire Thierry, puisqu'il a toujours eu envie de dessiner des robes, d'être couturier, d'être styliste. Mais il va falloir longtemps avant qu'il accepte sa vocation. Quant à Hiro, et je pense qu'il partage certains points communs avec vous, lui, il veut écrire. Alors, au début, peut-être dans le journalisme, il essaye de décrocher un stage dans une revue. Et puis, on sent quand même que profondément, c'est la littérature qui lui tient à cœur. Et si vous permettez, je vais lire ces quelques lignes où Hiro s'exprime sur l'écriture, et je trouve que c'est passionnant. Je vous demanderai de commenter après si vous voulez bien. Ouvrez les guillemets. « On n'écrit pas pour faire plaisir ou entrer dans les bonnes grâces de tout le monde. On écrit parce qu'on a quelque chose d'important à dire. » Fermez les guillemets. Qu'est-ce que vous aviez de si important à dire dans ce livre ?
C'est ce message-là pour moi qui dit que vous pouvez, vous avez la capacité, vous avez le pouvoir d'aller au bout de vos rêves. Parce que souvent, en tant qu'Africain, on ne nous apprend pas à rêver. On nous dit, tu vas grandir, tu vas faire ci, tu vas faire ça. On ne nous dit pas de quoi est-ce que tu rêves, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie. On ne nous pose jamais cette question. Et pour moi, ce n'est pas la question qu'il faut poser à un enfant. Il faut lui demander ce qu'il aime faire, ce qu'il a envie de faire, ce qui fait résonner, ce qui fait battre son cœur. Quand Hiro vient à la littérature, il vient à la littérature parce qu'il aime ça profondément et surtout parce que c'est pour lui une manière de parler, de raconter sa vie, de raconter ses inspirations, ses aspirations, de raconter ses jeunes, de se raconter lui-même, de raconter sa famille. Et pour moi, au début, il ne s'en rend pas compte parce que quand il arrive dans cette université-là et qu'il fait face à toutes ces difficultés, il se dit « bon, je vais faire un article qui dit qu'à l'université, il se passe ci, à l'université, il se passe là » et il ne rentre pas en profondeur. C'est comme un photographe, il vient, il pose sa caméra, il fait une photo et il s'en va. Il ne cherche pas à rencontrer les protagonistes même de cette photo-là, à leur parler, à leur demander pourquoi tu as l'air si triste sur cette photo, pourquoi tu es assis comme ça, pourquoi tu ne parles pas beaucoup, etc. Et pour moi, c'est une démarche qu'il faut établir lorsqu'on écrit. Il faut se dire que c'est des gens qui vont nous lire, ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas des machines. On ne peut pas juste choisir une thématique et se dire « vas-y, j'en parle comme dans un documentaire, j'en parle comme dans un reportage ». Ce sont des humains et c'est pour ça qu'on vient à la littérature, parce qu'on recherche quelque chose de l'ordre de l'humain. Et c'est cette réalisation-là que Hiro fait lorsque ce professeur-là lit son article et lui dit qu'il est mauvais son article.
Mais du coup, vous remettez aussi tout en question la génération des pères. Puisque vous dites, on ne demande pas à un enfant de quoi il rêve. Ouais. Vous, on vous a demandé de quoi vous rêviez, Nins Monfalé ?
Il faut dire que j'ai eu beaucoup de chance, parce que dès le bas âge, comme j'ai dit, j'ai commencé à dessiner. Je dessinais et mon grand-père m'a dit comme ça, tu vas devenir peintre, tu vas devenir artiste, tu vas aller faire les beaux-arts, tu vas vendre des milliers de tableaux. Et évidemment, vu que je dessine, vu que j'ai cette passion-là pour le dessin, je me suis dit, il doit avoir raison. Je vais faire de la peinture, je vais faire les beaux-arts. Et plus le temps passait, plus les années passaient, malgré que j'avais cette passion pour le dessin, je me suis rendu compte que ce n'était pas réellement ce que j'avais envie de faire. C'était une passion parmi tant d'autres, mais le fil conducteur de toute cette passion-là, c'était l'envie de raconter des histoires.
Est-ce que ce sont vos lectures qui vous ont fait devenir écrivain, Nins Monfalé ?
Lire, pour moi, n'était pas forcément une activité plaisante au départ, parce que je me souviens que j'étais tout le temps accroché à la télécommande, à regarder des dizaines de dessins animés, de séries, de films, etc. Et pour moi, la littérature, c'était un petit peu ce domaine ennuyant, où on parlait beaucoup pour ne rien dire. Et pour moi, qui recherchais principalement des histoires, la télévision, le cinéma, c'est le premier vecteur. Et il y a mon grand-père qui, un jour, m'a dit « Tu passes beaucoup trop de temps devant la télé. Tu sais que tu peux retrouver la même chose dans les livres. » Et honnêtement, je n'y croyais pas. Parce que pour moi, prendre un livre, c'est limite soulever une brique. Tu te dis « Mais il parle, on n'en finit pas. » Et il m'a acheté un roman qui s'appelle Les frasques de Binto. C'est un roman qu'on lit au collège en Côte d'Ivoire. C'est un roman qui, je pense, tout écrivain ivoirien vous le dira, a marqué un petit peu l'écriture de ces auteurs-là. Et c'est le premier roman que j'ai lu jusqu'à la fin. Et j'en suis ressorti bouleversé parce que Pour la première fois, je n'avais pas dans mes mains un objet rempli de mots qui ne veulent rien dire. J'avais une histoire absolument poignante, déchirante, qui m'a donné envie d'en lire davantage. Et je suis arrivé à cette dernière page en me disant, si quelqu'un peut faire ça, peut-être que je peux y arriver aussi.
Et effectivement, vous dites quelque chose de très beau encore. Écrire, écrire jusqu'à ce qu'il ne me reste plus aucune force, plus rien à dire, plus de ressentiment ni de colère. Écrire jusqu'à y laisser mon âme. Vous avez une conception exigeante aussi de l'écriture et de la littérature, Nasmon Fallet.
Oui, parce que pour moi, tous les livres se valent, toutes les histoires sont intéressantes. Il faut aller chercher celles qui nous parlent le plus. Mais pour moi, lorsqu'on décide d'écrire, on ne peut pas faire dans la demi-mesure. On ne peut pas dire que je me retiens, je parle de ce sujet-là, mais je ne vais pas au fond. Pour moi, il faut littéralement s'ouvrir, se déchirer, parler de soi, parler des autres et y laisser son âme comme c'est marqué dans le roman. Parce que en écrivant ce roman, j'y ai laissé beaucoup de moi. Mes personnages ont quelque peu des fragments de mes insécurités, de mes angoisses, de mes rêves. Et pour moi, ils n'auraient pas eu la même force si je n'avais pas eu le courage de me livrer à ce point.
Pour finir, un mot sur le titre. Qu'est-ce que ça veut dire, ces soleils ardents?
Ces soleils ardents, c'est pour moi mes personnages, parce que je les considère ainsi. Ce sont des soleils, ce sont des astres, ils brillent, ils illuminent, ils se battent, ils sont motivés. Et pour moi, là, les regarder, c'est un petit peu être ébloui par tant de volonté. Et pour moi, je les compare à des soleils parce que pour moi, ils sont des soleils. Mon personnage principal, Hiro, d'ailleurs, porte le prénom Hiro qui signifie littéralement soleil en guéri. Et il n'y a pas d'autre soleil que dans ce roman.
Et puis c'est un soleil aussi pour éclairer toute la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. J'ai l'impression que vous avez envie de leur donner de la chaleur, de la foi, de la confiance.
Oui. Lorsque j'écrivais, je me disais, j'avais cette phrase-là qui disait que lorsqu'on arrive à un certain âge, on se retrouve dans le brouillard. Et quoi de mieux que d'avoir un soleil dans un brouillard? Parce que le soleil nous guide, le soleil nous montre la voie, le soleil nous réchauffe, comme vous l'avez dit. Et pour moi, se retrouver dans une situation qui nous étouffe, nous barre la vue, et se rendre compte qu'il n'y a d'autre soleil que soi-même, qu'on est l'instrument de sa propre réussite, pour moi, c'était primordial d'en parler. Primordial de montrer à ces jeunes-là qu'ils sont leur propre soleil.
Ces jeunes de la Côte d'Ivoire.
Oui.
Merci beaucoup, Nasmon Fallet.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes le lauréat de ce roman « Ces soleils ardents » qui a reçu le 4e prix Voix d'Afrique, créé, je le rappelle, par RFI, les éditions Jean-Claude Lattès et la Cité internationale des arts. Et à nouveau, je remercie l'Institut français du Cameroun qui nous permet de nous rencontrer ici, à Yaoundé. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.